RMC Grand Plateau, Johan Bredov.
Salut à tous, bienvenue dans un grand plateau consacré aujourd'hui au transfert. L'année dernière, rappelez-vous, le cas Sienoche de Brooks avait fait parler. Cette année, c'est son compatriote Maxime Van Gils qui a décidé de partir avant la fin de son contrat à la Loto. Deux cas quasiment similaires et surtout deux coureurs qui possèdent le même agent, Alex Carrera, l'agent des stars, lui qui s'occupe également de Tadej Pogacar et autres Jasper Philipsen. Alors, le système de transfert est-il en train de changer? Doit-on s'en inquiéter? On va répondre à toutes ces questions. On aura comme invité Philippe Rimbaud, désormais ex-agent, qui viendra nous parler de ce métier, de son rôle au contact des coureurs, mais aussi nous donner son avis sur l'évolution du cyclisme dans le domaine des transferts. Avant de l'accueillir, je vous présente ceux qui vont m'accompagner. Pierre Cochette est là. Salut Pierrot.
Salut.
Et Jérôme Coppel, évidemment, est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Johan, salut messieurs.
Et Philippe Rimbaud, notre invité, donc, est là, c'est parti pour Grand Plateau. Bonjour Philippe, on est ravis de vous avoir sur Grand Plateau. Je le disais, désormais ex-agent, c'est tout nouveau ça, la retraite. C'était il y a quelques semaines maintenant que vous avez pris cette décision.
Oui, exactement, j'ai pris cette décision il y a quelques semaines. Enfin, la décision a été prise il y a quelques mois, ouais. Et elle s'est concrétisée dans ces jours derniers, en fait, parce qu'il y a toujours des dossiers à boucler et j'avais la volonté de ne pas lâcher les coureurs que j'accompagnais dans la nature comme ça. Donc, il était important pour moi de bien boucler la boucle.
Vous avez une vie bien remplie hein. Dans le vélo, vous connaissez tout, vous avez tout connu ou presque, journaliste déjà dans un premier temps, puis vous avez participé à la création du Vendée U aux côtés de Jean-René Bernodeau, puis des équipes Bonjour, des équipes La Boulangère également, Besson Chaussures Sojasun, devenu Sort Sojasun, ça va nous rappeler quelqu'un dans un instant, puis agent de coureur, on le disait, il y a eu Pierre Roland, Brian Coquart, Kevin Vauclin, Guillaume Martin, Evita Music aussi chez les femmes, et donc votre coureur historique, un petit coureur, Jérôme Coppel, qui est là. Jérôme, c'était comment de travailler avec Jérôme, Philippe? Est-ce que c'était facile? Parce que là, il nous coûte extrêmement cher, quand même, sur RMC. Du coup, est-ce que c'était compliqué ou pas?
Bah écoutez, il a toujours coûté extrêmement cher, et ce qui était un bonheur pour moi, parce que plus il coûtait, et mieux je me portais. Non, mais plus sérieusement, ça a été un vrai plaisir de travailler avec Jérôme. En fait, on s'est connus, vous l'avez souligné au passage, au sein de l'équipe Sorce Jason, oui. et le lien était relativement fort, ce qui fait que lorsque je suis devenu agent, Jérôme a très vite m'a rejoint. Je peux même dire que c'était mon premier client, et en tout cas mon client historique. Et je pense qu'on a fait à la fois du bon travail ensemble, mais surtout, on a vécu des moments d'échange et des rapports humains qui étaient riches. Et c'est la plus belle des richesses, celle-là.
Comment ça se passe, une rencontre entre un agent et son coureur? Jérôme, c'est toi qui es allé vers Philippe ou c'est Philippe qui est plutôt allé vers toi?
Non, bah c'est un petit peu les deux en fait. Philippe a dit, on s'est rencontré chez Sorce Jason où Philippe était un peu le numéro 2 de l'équipe. Et puis quand cette équipe s'est arrêtée, après Philippe m'a appelé, je sais pas, peut-être c'était quoi, Philippe, une ou deux saisons plus tard peut-être, pour me dire qu'il envisageait de passer ses diplômes d'agent, qu'est-ce que j'en pensais, etc. Et moi je lui ai tout de suite dit, fonce, je pense que tu ferais un très bon agent, parce qu'on en reparlera peut-être plus tard, mais... À mon époque, un peu préhistorique, il y avait très peu d'agents. Et moi, j'avais un agent depuis une année quand Philippe m'a commencé à me parler de son projet pour passer ses diplômes-là. Et je lui ai dit, écoute, si tu as tes diplômes, je serai ton premier client. Il n'était pas trop sûr. Hein. Au début, il a dit, les cyclistes sont souvent des menteurs. Je ne suis pas sûr que tu vas vraiment venir avec moi. Et dès qu'il a eu ses diplômes, comme il l'a dit, en fait, on avait une relation... déjà très forte après mon passage chez Sorce Jason, et ça s'est fait naturellement finalement. J'avais déjà toute confiance en lui par les trois saisons qu'on avait vécues sous le même maillot, et puis après ça s'est enchaîné comme ça et ça s'est super bien passé par la suite.
Oui, donc cette relation qui dure. Philippe, vous parliez justement d'une relation de proximité aussi avec vos coureurs. Ben, avec Jérôme, on a compris, mais c'était important pour vous en tant qu'agent d'avoir ce rapport-là assez proche. Quand on pense agent, on pense déjà un peu au football, on va y revenir, mais on pense surtout à des gens appâtés par l'argent presque, sans trop de rapport humain. Vous, c'était la différence que vous vouliez mettre en avant.
Exactement. Moi, ce que je disais toujours, c'est grand 1, la performance, parce qu'on est là pour faire du sport et pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Grand 2, la qualité de vie et les rapports humains. Et puis, grand 3, et seulement grand 3, l'aspect financier des choses, qui, à mon avis, n'est qu'une conséquence des deux points évoqués précédemment. Si vous êtes performant et que vous êtes heureux de vivre, généralement, au bout d'un moment, vous gagnez bien votre vie.
Ouais, il y a une phrase que j'aime. Vas-y, Jérôme.
Ouais, si je peux rebondir là-dessus. En fait, on a souvent l'image des cyclistes pros, mais des sportifs pros en général, il y a beaucoup de monde autour de nous, que ça soit dans les équipes, les spectateurs, etc. T'es un peu suivant ton niveau, ton sport, reconnu dans la rue. Donc, on pense que les sportifs pros sont super entourés. En fait, c'est faux. On est quand même très seul dans le monde pro parce qu'il y a beaucoup de connaissances, mais c'est pas forcément des gens. Quand ça va un peu plus mal, ça fait déjà du tri. Des gens que tu pensais proches partent, etc. Et quand tu es dans une équipe de vélo, pour revenir au vélo, t'as pas beaucoup de personnes finalement à l'intérieur de ton équipe à qui tu peux te confier sur tes doutes, que ça soit ton niveau physique, etc. Parce que tu as toujours peur que ça remonte un peu aux oreilles plus haut et puis que tu te fasses sortir d'une sélection, etc. Et c'est là où Philippe était un peu différent de certains autres agents, c'est qu'il était vraiment là à l'écoute et puis on pouvait se confier à lui sur les doutes qu'on avait. Alors je parle de niveau physique, ça peut être le futur contrat, est-ce que je vais rester dans l'équipe, est-ce que je vais changer, etc. Et ça, en tout cas pour moi, ça a été un vrai plus de pouvoir parler de tout ça avec Philippe et même des fois de parler carrément d'autres choses que du vélo. Il venait sur énormément de courses et puis des fois le soir, on se boit un coca, un truc et puis on parle de tout sauf du vélo. Et en fait, c'était hyper important pour moi et je pense que les autres coureurs qui ont eu Philippe également, c'est l'argent et le contrat finalement, comme a dit Philippe, il venait seulement dans un deuxième temps. C'était d'abord d'avoir un projet sportif qui tienne la route. Ça, c'était le relais de Philippe et du coureur de discuter un peu de quel projet sportif ou vers quelle tendance il voulait aller. Et puis l'argent venait après. Mais Philippe, c'était vraiment une oreille qui était là. Et comme il a connu plein de je sais pas si on peut dire de rôle dans les équipes de vélo, mais tu l'as dit, la création du Vendée U, après dans les équipes pro, etc., il avait une vision hyper large du vélo et puis avec tous les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'était vraiment un vrai plus d'avoir Philippe comme agent là-dessus, quoi.
Philippe, une question.
Jérôme, merci.
est-ce qu'en 2024 on peut imaginer des coureurs sportifs du top niveau ou du World Tour qui n'ont pas d'agent? Ou est-ce que c'est devenu une rareté?
Non, ça c'est franchement aujourd'hui on a même presque l'effet inverse. Je dirais qu'aujourd'hui tous les coureurs à 95% ont chez les pros ont un agent. Je pense que les 5% qui restent, c'est des coureurs qui sont un petit peu en bout de piste, à qui il reste plus qu'une année ou deux de contrat et qui se disent « bon, je vais finir comme ça ». Mais globalement, tout le monde a un agent. Et pire que ça, tous les espoirs ont un agent, tous les juniors ont un agent et bientôt tous les cadets auront un agent. Et là c'est plus, un peu plus problématique.
Ouais, attendez, pourquoi vous dites pire? Parce que c'est quand même un peu se tirer une balle dans le pied par rapport à votre ancienne profession, mais bon, c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Et c'est pas nécessaire d'avoir un agent.
Non, mais ce qui est délicat, c'est que c'est de tomber sur un bon agent et de faire appel à un agent pour des bonnes raisons. Il y a trop de jeunes qui pensent qu'il suffit d'avoir un agent pour passer professionnel. Il faut d'abord avoir un tempérament, des jambes, une santé, une préparation et du talent. Et peut-être un jour, ensuite, on peut avoir l'opportunité de passer professionnel. Je pense qu'il y a il y a un peu un éblouissement, voire une sorte d'hypnose d'un certain nombre de jeunes, et parfois de leurs parents d'ailleurs. C'est pour ça que je dis c'est problématique. Encore une fois, je pense que c'est nécessaire d'avoir un agent parce que c'est de plus en plus complexe un contrat, démarcher des équipes. Les équipes sont structurées, donc trouver les clés d'entrée, savoir quels sont les bons arguments à mettre en avant pour mettre en valeur le coureur. Tout ça, c'est un vrai métier et je vous parle pas de l'aspect juridique des choses. Mais il faut pas brûler les étapes Et encore une fois, vous savez, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants avec Jérôme, le mot clé dans toute cette histoire, c'est le mot confiance. Votre agent, ça doit être quelqu'un de confiance. Et heureusement, il y a des grands professionnels et on est, je vous ai entendu parler, évoquer le football tout à l'heure, on est loin encore des dérives du football, mais franchement, il faut vraiment qu'on mette des garde-fous pour conserver une certaine éthique dans notre profession.
Bon, on va en parler parce qu'il y a aussi des agents qui viennent du football, hein, qui arrivent dans le cyclisme, notamment un certain Mendes qui arrive sur les coureurs portugais. On va en parler d'Alex Carreira aussi, l'agent des stars, comme je le surnommais justement. Toi, Jérôme, tu l'évoquais un petit peu il y a quelques minutes maintenant, cette évolution des agents. Tu le disais, toi, à ton époque, quand tu as commencé au milieu des années 2000, c'était quoi? Les grandes stars qui avaient des agents. Maintenant, ça s'est généralisé. Toi, comment tu as vécu ça de l'intérieur quand tu étais coureur?
Ouais, bah moi je suis passé pro en 2008. À l'époque en France, il n'y avait qu'un agent, c'était Michel Gros. Alors il y avait des agents d'autres nationalités aussi, mais finalement il y avait très très peu de coureurs qui avaient des agents. Alors je pourrais même pas, je me rappelle même pas qui en avait. En tout cas, moi je passais pro à la Française des Jeux, il n'y avait aucun coureur qui avait un agent à cette époque-là. Et puis petit à petit, bah voilà, il y en a eu un petit peu plus. Moi, mon premier agent, je l'ai eu à la fin, ouais, courant 2012. Pourquoi? Parce que, alors déjà, faut prendre le contexte global. À mon époque, les contrats, ça se négociait pendant le Tour de France. Donc, tu avais quelques discussions un petit peu avant. Pendant le Tour de France, tu finalisais. Mais sur un Tour de France, tu n'as pas le temps de passer tes coups de téléphone à des managers. Sur les journées de repos, des fois, il fallait se déplacer pour rencontrer un manager d'équipe, parler du contrat, du projet, etc. Tu n'as pas le temps de faire ça sur un Tour de France. Donc, en 2012, moi, c'est là où l'équipe Source Jason allait peut-être s'arrêter. J'étais en plein Tour de France, il fallait que quelqu'un puisse s'occuper de ça. Donc c'est comme ça que j'ai pris mon premier agent, qui était Michel Gros, puisqu'en France, il y avait que lui à l'époque. Mais c'est vrai qu'avant, il n'y en avait aucun. Tout à l'heure, vous avez parlé avec Philippe. C'est Philippe qui a dit que maintenant, les cadets ou les juniors ont déjà des agents. Ouais, moi, pas plus tard que juste avant le Tour, hein, j'ai une équipe professionnelle qui m'a appelé pour avoir le contact de Paul Sexas, que je connais un petit peu. Et du coup, lui, il est junior. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, oh là, faut voir avec mon agent, ça fait déjà 2 ans que j'ai un agent. Donc déjà en KD2, il avait déjà un agent. Alors bien sûr, c'est la future star française, etc. Mais tout ça pour revenir à ce que disait Philippe, c'est que nous, moi, quand je suis passé pro en 2008, c'est seulement 4-5 ans après que j'ai eu mon premier agent, alors que maintenant, c'est dès les cadets ou les juniors. Mais tout l'entraînement se professionnalise. On a fait le podcast sur la nutrition, c'est de plus en plus tôt. Bah, les agents, c'est la même chose finalement. Mais on a vraiment vu l'évolution. Et moi, sur la fin de ma carrière, Philippe disait 95%, voilà, en 2016, il n'y en avait peut-être pas 95% à l'époque, mais il y avait déjà un bon 80-85%, je pense, qui avait des agents, alors que 10 ans plus tôt, il n'y avait peut-être que 5% qui avaient un agent. Donc c'était complètement, ça a vraiment switché en une dizaine d'années. Souvent, et j'ose l'espérer, pour le mieux, mais ce n'est pas toujours le cas.
Ça fait rire Philippe, ça me fait rire aussi. C'est vrai que tout est en train de changer. Justement, un peu la même question pour vous, Philippe. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir agent? On en a parlé de votre vie passée avant cette vie d'agent. Qu'est-ce qui vous a fait switcher pour ce métier-là?
En fait, quand je suis sorti de l'expérience Source Jason, je me suis demandé à quel endroit je pouvais être le plus utile. Et il se trouvait, et la relation avec Jérôme en est un bon exemple, que j'avais de bonnes connaissances dans le cyclisme, que j'étais, je vais être prétentieux 10 secondes, plutôt bien apprécié de manière générale, que les gens savaient que j'étais droit et rigoureux. Et donc mes connaissances et ma culture faisaient que c'était un métier que je pouvais aborder de manière assez sereine. Et puis, quand j'ai passé mes diplômes, j'étais pas certain encore de m'installer. Et puis finalement, par amour du cyclisme, il faut bien le dire, je me suis laissé emporter. Et puis après, j'ai été aussi porté par l'estime qu'un certain nombre de coureurs pouvaient me porter.
Ouais, ça aide forcément. C'était ma prochaine question. Cette estime-là, le fait d'avoir été pendant longtemps dans le vélo avant, j'imagine que ça aide parce que non seulement vous connaissez les coureurs, mais surtout vous connaissez les directeurs sportifs. Vous savez comment négocier individuellement avec chacun d'eux. Je pense notamment à Jean-René Bernodeau qui préférait ne pas avoir recours à des agents, à l'intermédiaire d'un agent qui préférait négocier directement avec le coureur. J'imagine que ça aussi, ça aide dans ce métier.
Ouais, tout à fait. Et puis, lorsque j'étais dans des équipes, j'ai toujours eu des responsabilités. J'ai été vice-président de la Ligue, j'ai été président des groupes sportifs en France. Et donc, à ce titre, je participais à pas mal de commissions à l'UCI. Donc, je travaillais à côté d'autres responsables d'équipe qui ont vu comment je travaillais. Et effectivement, ça a facilité les choses quand je me suis installé, parce que tout le monde savait exactement quel était mon style et ma manière de travailler, quoi.
Et donc, je le disais tout à l'heure, vous avez pris votre retraite donc cette année. Dans quelques jours, ça sera effectif. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Est-ce que justement, c'est dû au changement de ce rôle d'agent qui, on sait que le système est en train d'évoluer. Jérôme en parlait peut-être de la mauvaise façon. Est-ce que ça a influencé votre décision?
Pour être honnête, oui, un peu. Un peu, j'ai eu quelques déceptions au cours du printemps, et ce qui m'a amené à me remettre en question, à tout reposer sur la table, à peser le pour et le contre, et je me suis dit que ces petites déceptions étaient peut-être le signe qu'il était temps d'arrêter et de passer à autre chose, et puis de penser à moi-même plutôt que de consacrer ma vie aux autres.
Forcément, et consacrer sa vie à Jérôme Coppel, on sait à quel point c'est compliqué, mais tu comprends, toi, en tant que coureur retraité aussi, Jérôme, ce changement-là, que ça puisse dégoûter ceux qui, peut-être les agents qui, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui avaient une éthique humaine, en tout cas, c'est compliqué maintenant de s'en sortir dans ce cyclisme moderne.
Bah ça serait plutôt à Philippe de
Ouais.
répondre, mais je pense que le métier d'agent, comme Philippe l'a connu à ses débuts, bah, est aussi en train de changer. Et puis, il y a de la concurrence aussi dans le métier d'agent, et de la concurrence qui est peut-être pas toujours loyale ou saine en tout cas. Et puis, quand tu es coureur, on disait tout à l'heure qu'avec Philippe, ce qui comptait en priorité, c'était le projet et pas forcément le montant au bout de ton contrat que tu allais signer. Mais on sait aussi qu'une carrière de coureur cycliste, c'est très court. Si vous avez une chute, une mauvaise chute, etc., ça peut s'arrêter très vite. Et après, vous avez des agents qui viennent, qui vous font un peu tourner la tête en vous disant: Ah oui, mais ton agent, eh ben, il est pas très bon. Parce que ça se passe comme ça, faut dire ce qu'il y a. Hein. Il y a des agents qui, moi-même, quand j'étais avec Philippe, d'autres agents venait, disait: Ouais, mais ton agent il est pas très bon, parce que regarde le contrat, moi si je te fais signer là-bas, je vais te faire signer un contrat à je sais pas combien, etc. Mais en fait, si toi en tant que coureur, ben voilà, tu te dis mince, soit je suis en fin de carrière, ou soit je sais pas trop combien de temps ça va durer et je vais prendre le plus d'argent possible, ben voilà, tu vas te laisser tourner la tête par l'agent qui te vend un peu du rêve, tu vas signer avec lui et puis peut-être que tu vas même pas te plaire dans ton équipe, ou alors tu restes droit dans tes bottes, tu crois au process et à ton projet et où tu veux aller, et puis tu restes avec ton agent parce que tu lui fais confiance. Mais tu peux comprendre aussi que quand tu es un jeune coureur, que tu as peut-être déjà un bon contrat, mais qu'on te dit: Moi je vais t'emmener quelque part et je vais te faire signer x2, bah, on peut aussi comprendre les jeunes qui ont la tête qui tourne un petit peu. Mais maintenant, je pense que le métier d'agent est aussi en train de changer. Et quand Philippe disait tout à l'heure qu'il fallait des garde-fous, je pense que c'est maintenant qu'il va falloir en mettre, parce qu'on voit qu'il y a déjà pas mal de dérives. J'aime bien le foot, hein, mais j'aimerais pas que le cyclisme devienne comme le foot, par contre.
Et ben justement, on va en parler de ce marché des transferts, et je mets des gros guillemets sur le terme marché, parce que je sais que Philippe, vous n'aimez pas beaucoup ce terme-là pour désigner ce qui se passe dans le cyclisme. Mais c'est vrai que je parlais des cas Chianoch de Brooks et Maxime Van Gils, qui sont à peu près les mêmes, le même agent, Alex Carrera, et des décisions de rupture de contrat unilatérale pour Chianoch de Brooks. Maxime Van Gils, c'était un peu plus compliqué. Lui, il avait négocié son contrat en mars, il avait prolongé avec la Lotto avant finalement de décider de quitter l'équipe et de signer en toute fin du mois de décembre pour sa nouvelle équipe, la Bora. On est en train d'assister à un changement. Le rôle des agents est en train de changer. On le voit avec des agents stars. on a du mal à ne pas penser qu'Alex Carrera a mis une petite graine comme ça dans le cerveau de ses coureurs. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui étiez à l'intérieur du peloton depuis très longtemps maintenant?
Alors écoutez, je vais compléter et assurer la transition après la très bonne analyse de Jérôme Coppel, qui est décidément aussi bon comme consultant qu'il n'a été comme champion cycliste. Mais vous le savez, les agents, depuis un an et demi maintenant, se sont réunis dans une association internationale qui s'appelle WARA, l'association des mondiales des agents de coureurs cyclistes. Et il se trouve premièrement que dans le bureau de cette association figure Alex Carrera en compagnie de quatre autres agents, dont moi, et je suis le président de cette association qu'on a créée. Et curieusement, dans les premières discussions que nous avons eues, très vite est venue l'idée d'une sorte de code éthique. Alors le mot est un peu fort, mais pour vous dire que cette alerte sur les dérives progressives de notre métier, elle est ressentie et elle est entendue par tous les acteurs, tous les agents, et y compris par Alex Carrera lui-même. Alors je rentrerai pas, moi, dans le dossier de tel ou tel coureur et de tel ou tel agent, parce que vous semblez en parler avec plein de certitudes. Moi, je suis toujours très prudent quand je suis pas dans un dossier. Et si vous voulez, de temps en temps, pardonnez-moi, mais j'entends des journalistes parler de dossiers que je connais bien, et je vois un petit peu le décalage qu'il peut y avoir dans certaines interprétations. Donc je m'applique cette discipline à moi-même et j'évite de parler des dossiers des autres. Ce que je peux dire sur Alex, c'est que c'est un très grand professionnel. C'est que c'est quelqu'un d'ailleurs de très convivial, de charmant, avec qui faut vraiment être tordu pour pas bien s'entendre avec lui. Et je pense que il pousse le système jusqu'au bout. À ma connaissance, il n'a rien fait d'illégal, sinon je pense que soit l'UCI dans un premier temps, soit la justice dans un deuxième temps, aurait porté l'affaire devant les instances concernées. Donc, c'est sûr que il a, comment dirais-je, il sait gérer les rapports de force et souvent, c'est son métier, il essaye que ce rapport de force soit au profit du coureur. Voilà.
Mais justement, là, vous parlez de rapport de force, parce que, sans rentrer dans les détails, on a donc des coureurs qui rompent des contrats de façon unilatérale. Est-ce qu'il ne faudrait pas un système encadré, pas forcément sur le modèle du football, parce que lui-même va être obligé est en train d'exploser avec le dernier arrêt d'IARA de la Cour européenne de justice, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un système encadré où les équipes pourraient vendre les contrats à une équipe concurrente comme vous pouvez vendre le contrat d'un joueur de foot ou d'un joueur de rugby?
Alors, ouais, mais ça c'est une grande question, et d'ailleurs l'arrêté de la Cour européenne de justice, elle s'oppose un petit peu à ce système. Hein,
tout à fait.
Donc on va pas mettre en place quelque chose qui... La Cour a rappelé deux choses. Elle a rappelé ce que vous êtes en train d'établir, qu'une fédération internationale peut effectivement mettre en place des règles pour essayer d'encadrer le système dans l'intérêt général de son sport. Mais elle a rappelé dans le même temps que tout cela ne peut pas se faire contre les lois européennes et notamment contre la libre circulation des travailleurs. Et quand vous mettez des clauses de sortie exorbitantes dans un contrat, c'est une entrave à la liberté de circulation du travailleur. Donc oui, il faut statuer, oui, il faut trouver la règle du jeu la plus saine possible, ce qui est pas le cas actuellement. L'UCI a mis en place une nouvelle mouture du règlement des transferts au cours de l'été, Très sincèrement, d'abord moi, à titre personnel, j'ai encore pas bien compris ce qu'on nous demandait. Et deuxièmement, visiblement, c'est pas très efficace puisque ça n'a pas empêché les dossiers que vous évoquiez tout à l'heure, et notamment du jeune coureur belge.
Ouais, Van Gils, donc, qui a rompu son contrat avant la fin de saison. On parlait des indemnités de transfert, c'est ça que tu évoquais, Pierre. Je vous propose, avant de te laisser réagir, Jérôme, d'écouter un autre Jérôme, consultant sur RMC, Jérôme Pinault, qui s'est exprimé, c'était le 25 août dernier, dans les grandes gueules du sport. Il parlait justement de ce système qui est en train de glisser vers le football et des indemnités de transfert qui pourraient avoir lieu dans le vélo.
On est... Le vélo, c'est un très beau sport.
Très beau
et aujourd'hui,
sport.
On est en train de se structurer avec des jeunes équipes. Il y a une chose à faire déjà. Transférons les joueurs. Transférons les coureurs. Ah, quand on dit transfert dans le vélo, on se fait insulter.
Vous n'avez pas le droit
de transférer. Le tour de l'avenir, on ne peut pas. Le tour de l'avenir vient de voir le succès d'un jeune Anglais, Blackmore. D'un mec qui a monté le Collet de la Finestre hier, plus vite que Chris Froome il y a quelques années. Le gamin, il est déjà sous contrat chez UAE. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en France, avec nos gamins? On a des très, très bons coureurs en France. AG2R La Mondiale va bientôt avoir dans ses rangs Léo Bizio, qui vient de signer professionnel, qui vient de faire 4e du Tour de l'Avenir. Énorme talent. Si tu signes ce gamin-là, 6 ans, et tu dis, il va signer 6 ans chez nous. Léo, tu vas signer, tu vas avoir des super conditions. Par contre, tu vas signer 6 ans, tu auras des clauses de sortie, mais ce seront des clauses payantes. On commence à mettre en place ce qu'on appelle le transfert dans les autres sports. Tu veux mon jeune talent, pas de problème, mais tu payes tant d'euros, tant de milliers d'euros, tant de millions d'euros. Et toi, tu fais des rentrées, et avec ça, tu reformes, et tu continues, et t'essayes. Parce que la meilleure des formations des gamins, c'est chez nous, les gars. Chez nous, on a tous les champions du monde, les champions d'Europe, jusqu'à junior, cadet, junior, espoir, et ensuite, il n'y a plus personne.
Jérôme Pinault qui donc veut des indemnités de transfert, qui dit que ce serait une bonne chose. Il y a Christophe Lemével, hein, qui est agent de coureur également, qui pense que ça pourrait aider les petites équipes et gommer comme ça les inégalités, parce que dans le système actuel, les jeunes coureurs partent finalement sans indemnité, et ça crée plutôt des handicaps pour son équipe formatrice, si on peut l'appeler comme ça. Jérôme Coppel, toi, tu es plutôt du côté de Jérôme Pinault ou plutôt du côté de Philippe, justement, et tu es contre les indemnités de transfert? T'en penses quoi?
Attendez, moi, je suis pas contre.
Ouais, pas contre, mais oui, forcément, mais ce système qui glisserait vers le football.
Non, mais moi, je suis assez d'accord avec l'avis de Jérôme Pinault, ce qu'on vient d'entendre. Maintenant, faudrait même encore redescendre plus bas, parce que comme on a dit, il y a des équipes formatrices qui prennent des coureurs de plus en plus jeunes. On a dit, les jeunes coureurs sont professionnels de plus en plus tôt, etc. Il y a aussi vraiment la base, les équipes amateurs qui sont en train de mourir à petit feu parce que les équipes pro tour ont des équipes de développement, etc. Donc en fait, il faudrait que ces indemnités de transfert, si on arrivait à trouver un système, il faudrait aussi qu'elles retombent sur les équipes amateurs qui ont formé un coureur depuis les rangs, peut-être pas école de cyclisme, mais voilà, cadet, junior, et peut-être qu'il, voilà, après il va passer dans une équipe développement, etc. Mais oui, ces ruptures de contrat, je pense qu'un des premiers qui a fait ça, c'était pas pour une histoire d'argent, c'était plus pour une histoire d'adaptation, et il s'entendait plus trop avec le staff, c'était Rohan Dennis, je pense, en 2014, qui était passé de Garmin, qui est Education First maintenant, à BMC. Mais il y en avait moins, c'était vraiment un tous les 2-3 ans. Maintenant, le problème, c'est que c'est en train de devenir courant. Et puis, quelqu'un qui voit depuis 2-3 ans, il y a eu Roglic, on parle de Van Gils, Hoogje Broek, etc. Il y en a, il va se dire, bah eux, ils le font, pourquoi moi je vais pas le faire? Après, tu pars dans un bras de fer, et en fait, l'équipe qui perd, c'est l'équipe qui a le coureur sous contrat. Là, on prend l'auto, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez l'agent qui va dire à Van Gils, et je connais pas le dossier, c'est ce que je vois de l'extérieur. Vous avez l'agent qui dit, bah là, moi, comme tous les budgets des équipes augmentent de plus en plus, Bora arrive avec Red Bull avec beaucoup d'argent, ils peuvent racheter le contrat sans trop de problèmes. L'agent dit, bah là, tu peux aller chez eux pour plus d'argent. Le coureur va dire à son équipe actuelle, l'auto, bah là, moi je veux partir. L'auto, s'ils leur tiennent, ils font quoi? Ils se tirent une balle dans le pied, ils gardent un coureur qui de toute façon ne veut plus être chez eux. Donc ça sera contre-productif pour tout le monde et pour l'équipe. Ça leur prend une place pour un coureur qu'on ne veut pas, et le coureur, il ne veut pas rester chez vous. Donc oui, peut-être qu'une indemnité, des indemnités de transfert comme le propose Jérôme Pinault, ça peut être un point intéressant. Maintenant, il faudrait savoir comment ces contrats sont dealés après. C'est-à-dire là, Van Gils, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que Bora Red Bull ont racheté le contrat à l'auto. ou en tout cas les années de contrat. On ne sait pas comment ça se passe.
Peut-être c'était ce qui s'était passé pour Roglic, notamment.
Pour Roglic, voilà. Donc peut-être qu'indirectement, il y a déjà, entre guillemets, des espèces d'indemnités de transfert. Donc est-ce que l'équipe, bon, si on prend Visma Lisebike l'an passé avec Roglic, est-ce qu'elle a été lésée en bout de compte, en bout de ligne? Elle a peut-être quand même reçu une indemnité, elle a quand même reçu peut-être de l'argent, mais il faudrait que ça soit un petit peu plus clair finalement.
Philippe, justement, vous n'êtes pas contre les indemnités de transfert. C'est quoi votre avis précis là-dessus?
Alors déjà, je vais resituer un tout petit peu le débat. On a l'impression que c'est très fréquent aujourd'hui parce que ça concerne des grands noms. Ouais. Mais sur, j'ai pas vérifié mes chiffres, mais sur, mettons, 1400 professionnels dans le monde, on parle de 10 cas. Donc vous avouerez que c'est quand même pas monnaie courante. Deuxièmement, je pense qu'on confond une conséquence et qu'on oublie la cause. La cause de ces transferts, c'est qu'on a actuellement 3-4 équipes au monde qui pèsent d'un poids considérable sur l'économie du cyclisme. Et vous pourrez mettre en place toutes les indemnités que vous voudrez, sous réserve qu'elles soient acceptées par la Cour européenne de justice. Vous n'empêcherez pas UAE de proposer un contrat de 6 ans à un jeune qui sort de cadet ou de junior et que ce jeune ne réfléchira même pas pour savoir s'il serait mieux chez Groupama FDJ ou chez Decathlon AG2R. Donc le vrai problème, il est là. Le vrai problème, c'est une disproportion terrible aujourd'hui dans les budgets entre des équipes qui semblent avoir un budget illimité et des équipes, et notamment les équipes françaises, hein, puisqu'on est, parlons de notre pays, des équipes qui ont des budgets non seulement plus limités, mais qui, en plus de ça, ont des contraintes financières terribles. Quand j'étais à la tête d'une équipe, j'avais coutume de dire, moi j'ai un problème, c'est que mon meilleur coureur, celui qui est le mieux payé de l'équipe, il ne prend jamais le départ d'une course. Ce coureur, il s'appelle URSAF. Et effectivement, c'était la partie la plus importante du budget des équipes que j'ai pu gérer. Et ça, évidemment, chez UAE ou dans d'autres équipes, on n'a pas ce style de problème. Donc vous imaginez ce dysfonctionnement, cette disproportion entre les budgets des uns et des autres. Et c'est ça le véritable problème. Parce que c'est pas parce que vous allez verser 100 000 euros d'indemnité aux 3-4 équipes précédentes dans lesquelles le jeune a pu évoluer, que vous allez fondamentalement changer le problème. Le vrai problème aujourd'hui du cyclisme, c'est des équipes qui surdominent, qui surécrasent le cyclisme et qui d'ailleurs portent la responsabilité peut-être demain d'un manque d'attractivité du cyclisme. Parce que si c'est toujours le même qui gagne ou les mêmes qui gagnent, au bout d'un moment, le public peut se lasser.
Ouais, et pour rebondir là-dessus, et c'est peut-être aussi une... Parce que là, on parle beaucoup de ces ruptures de contrat d'un côté financier, c'est-à-dire le coureur casse son contrat pour aller dans une équipe parce qu'il sera mieux payé. C'est peut-être le cas, mais peut-être qu'il y a aussi des coureurs qui veulent partir pour aller dans une... Alors, ça retombe, c'est lié aux histoires de budget, mais peut-être que Van Gils veut aller chez Red Bull Bora parce que c'est une grosse équipe et qu'elle domine, comme pour Visma, comme pour UAE. Il y a aussi des coureurs qui, au-delà de l'aspect financier, veulent aussi être dans une équipe qui gagne, qui domine et avec qui ils vont pouvoir contribuer à aider Pogacar ou Vingegaard à gagner le tour ou à participer aux grandes courses pour pouvoir les gagner. Il y a peut-être aussi ça qui joue. Il y a bien sûr l'aspect financier, on va pas se mentir là-dessus, mais il y a aussi des coureurs qui veulent faire partie des grandes équipes pour peser sur la course et pour avoir une chance de gagner les très belles courses. Donc il y a et l'aspect financier et l'aspect sportif. Alors c'est les mêmes équipes qui dominent sportivement et financièrement le peloton, et du coup je suis d'accord avec Philippe, est-ce que c'est pas ces équipes là finalement qui vont faire diminuer l'attrait du public pour le cyclisme.
Mais est-ce que justement, vous avez dit 10 cas sur 1400, est-ce que justement le problème c'est pas qu'il y a que 10 cas sur 1400 et que finalement quand on a un contrat relativement bon, on va pas le briser, alors peut-être qu'on devrait. Je pense notamment à Juan Ayuso qui clairement n'est pas vraiment heureux sauf qu'il est dans l'équipe UAE et qu'il a un contrat en or, mais est-ce que si vous êtes agent de Juan Ayuso, vous ne lui dites pas, écoute, va signer à la Movistar, ils vont peut-être payer un peu moins.
Mais au moins, tu pourras courir.
Parce que c'est pas un conseil que vous pourrez donner, ça?
Ça m'est arrivé de donner ce genre de conseil. Hein. Quand on a commencé à travailler avec Jérôme, on était un peu dans cet esprit-là. C'était priorité numéro un, retrouver de la joie de vivre. Et puis, on verra bien financièrement à quel niveau ça se situera. Et puis, si ça remarche et que tu es performant à nouveau, il sera temps de renégocier. Et c'est la démarche qu'on a entreprise et qui s'est déroulée comme telle, d'ailleurs. Hein.
Ouais. Non, mais pour revenir sur Juan Ayuso, par exemple, ça revient à ce qu'on disait. Il a signé un contrat de 5 ans ou 6 ans, un très bon contrat. UAE savent que c'est un bon coureur. Alors, apparemment, c'est de nouveau des rumeurs. Il n'est pas heureux chez UAE ou ça ne se passe pas très bien avec tel ou tel coureur, peut-être. Mais UAE, ils ne vont quand même pas le laisser partir libre. Ils ont ce coureur qui est très bon. Ils ne vont pas le laisser à la concurrence. Potentiellement, il pourrait devenir un adversaire de Pogacar.
Exactement.
Ou des autres. Donc, ils ne vont pas le laisser partir et encore moins gratuitement. Donc, qui va racheter, quelle équipe est capable d'aller racheter un contrat, peu importe l'indemnité, parce qu'UAE, ils ne vont pas en faire cadeau. Donc, qui va être capable de racheter 50 contrats à UAE, sachant qu'UAE, s'ils veulent, si vraiment ça se passe mal, ils le prennent, ils ne le font pas courir, ils continuent à le payer, ça ne va pas les faire boiter. Donc, et au moins, autant qu'ils soient chez eux et entre guillemets qu'ils ne courent pas, plutôt qu'ils soient à la concurrence et que ça puisse devenir un obstacle sur certaines courses à leur leader à eux.
Et Juan Ayuso qui est sous contrat avec UAE jusqu'en 2028, hein. C'est dire les contrats longs aussi. On sait que Tadej Pogacar a un contrat de 6 ans. Isaac Del Toro, jeune coureur, vous parliez tout à l'heure de UAE et de la Groupama FDJ, c'est typiquement le cas d'Isaac Del Toro, le Mexicain. Mais maintenant, quel coureur pourrait avoir envie aussi de quitter son équipe, par exemple Juan Ayuso, de quitter UAE, d'être moins payé mais de courir aussi? Ça, c'est très rare, on le voit dans le foot, c'est très rare qu'un joueur ou qu'un coureur accepte ça.
Alors là,
c'est rare. Ouais,
ouais, c'est rare, mais je veux dire, Juan Ayuso, même s'il quitte, imaginons qu'il quitte UAE, enfin il est très jeune, apparemment il a énormément d'ambition, il le dit lui-même, j'aimerais gagner le tour, j'aimerais être aussi fort que Pogacar, etc. Donc c'est qu'il a de l'ambition. Donc à un moment donné, faut être d'accord de faire des concessions sur l'aspect financier, comme disait Philippe, fais des concessions une année, deux ans, trois ans, peu importe, et si tu marches bien, de toute façon tu vas retrouver à peu près ce que tu gagnais avant. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux gagner de l'argent, être entre guillemets un coéquipier ou pour Ayuso peut-être pas encore au placard, mais s'il continue comme ça, peut-être. Ou alors, est-ce que tu veux te faire un palmarès et devenir très performant? Mais ça, c'est à lui de réfléchir à ça. Et à son jeune âge, j'espère quand même qu'il pense plutôt à son palmarès et à gagner des courses qu'à son porte-monnaie. Quoi.
Par ailleurs, j'ose espérer que les directeurs sportifs chez Bahreïn ou d'autres endroits ont déjà appelé, lui ont déjà parlé aussi un peu d'argent et qu'il ne serait pas forcément immensément perdant en allant dans ce type d'équipe. J'imagine.
C'est certain.
Philippe ?
Non, puis n'oublions pas, et Jérôme a bien fait de le souligner, qu'il y a l'aspect financier des choses, mais qu'on parle de sport et que ces garçons sont des compétiteurs. Si Juan Ayuso est malheureux, ça reste à prouver. Enfin, moi, je me méfie toujours des rumeurs. C'est aussi parce qu'il ne peut pas s'exprimer comme il voudrait sur la route. Et c'est quand même le centre du sujet. Encore une fois, on fait du sport, il y a des courses qu'il faut gagner. Et il y a un moment, le compte en banque, c'est une chose, mais c'est des coureurs qui aiment aussi la bagarre, qui aiment la compétition, qui aiment se surpasser. Je prends toujours cet exemple, puisque vous faites souvent le parallèle avec du football. Quand on est riche à millions, voire plus, quand on s'appelle Mbappé, pourquoi on continue à taper dans un ballon en short par tous les temps? Parce qu'on est passionné par son sport, parce qu'on est un compétiteur, parce qu'on a ça dans le sang. Et n'oubliez pas cet aspect central de ce dont on parle au cours de cette émission.
Oui. Ouais, et ça sera le cas, par exemple, pour un coureur comme Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, bah, ça revient un peu à ce que dit Philippe. L'argent, il en a suffisamment. Il a un très bon contrat chez Soudal Quickstep. Mais lui, ce qui va finalement poser problème bientôt, c'est son équipe autour de lui pour aller gagner des grands tours. On voit qu'elle est un peu faible par rapport à Visma Liesebike ou à UAE. Donc lui, un jour ou l'autre, peut-être dès l'année prochaine, on verra, il sera peut-être amené à changer d'équipe. Pas forcément pour l'argent, mais pour être dans une équipe plus structurée, plus compétitrice, avec plus de lieutenants autour de lui capables de lui faire gagner un grand tour. Donc ça revient de nouveau à cet aspect sportif. Il faut arrêter de penser que les coureurs cyclistes, ils pensent qu'à l'argent, etc. Oui, bien sûr, ça fait partie du job et si tu marches, tu auras un gros salaire. Mais à un moment donné, comme dit Philippe, c'est des compétiteurs, ils veulent gagner des courses. Et pour ça, bah, des fois, il faut sacrifier un peu d'argent pour aller dans une équipe qui va nous payer un petit peu moins, mais dans laquelle on aura les mains un peu plus libres, etc. Donc la base du vélo quand même pour tous ces sportifs pros, enfin ces cyclistes pros, c'est quand même d'aller gagner des courses. C'est ça la base du métier, parce que tu fais pas 30 000 km dans l'année par tous les temps, les chutes, etc. Partir 250 jours de la maison juste pour prendre un chèque. Tu vas pour faire des courses et pour gagner des courses.
Il y a une phrase de Philippe que j'aime beaucoup justement pour aller dans ton sens, Jérôme, c'est si tu veux gagner de l'argent, tu perdras des courses. Si tu veux gagner des courses, tu gagneras de l'argent. Philippe, c'est
exactement
tout à fait ça
en fait.
Ouais, c'est très flatteur, mais c'est pas de moi. Hein.
Oui, bon.
C'est une vieille, un vieil adage du cyclisme. Ouais, j'allais dire des bêtises, mais je sais plus de qui c'est, mais en tout cas, c'est pas de moi. Mais c'est quelque chose auquel je souscris, évidemment.
Et on parlait des indemnités de transfert, on parlait aussi des grosses équipes. J'aimerais revenir et avoir votre avis sur quelque chose. Parce qu'on y assiste déjà, mais à l'accumulation des grandes stars du peloton dans les équipes. On a vu l'année dernière que la Jumbo-Visma, à l'époque, a gagné les trois grands tours. Là, c'est UAE qui a des coureurs exceptionnels, qui est capable de gagner sur chaque course. Est-ce que ça ne va pas empirer les choses d'avoir ces indemnités de transfert? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas avoir, OK, des indemnités de transfert, mais réguler tout ça avec, par exemple, une chose qui revient souvent, un salary cap? Est-ce que ce n'est pas la solution, Philippe?
Alors, plus qu'un salary cap dont je ne vois pas bien comment on va faire je vois pas les contours réglementaires et juridiques d'un salary cap ou d'un budget cap. Je pense que si on va là-dedans, on se dirige tout droit vers une ligue fermée à l'américaine. Et je crois plus à un système de draft où le meilleur des jeunes va dans la plus mauvaise des équipes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Système à l'américaine, du coup, un peu.
Un système, ouais, c'est ça. Là, peut-être que ce serait. Jonathan Voters, le patron de l'équipe IF, est intervenu récemment dans un média sur Internet pour soutenir un peu cette idée. Oui, pourquoi pas. Le budget cap ou le salary cap, moi, je ne sais pas trop comment on va mettre en œuvre quelque chose qui va comparer des choux-fleurs, des carottes et des tomates, c'est-à-dire des économies kazakhes, émiraties, belges, espagnoles, australiennes et françaises. Il y a un moment, il y a une telle disparité dans les réglementations locales que je ne vois pas bien comment on va mettre ce système en place.
C'est le cas pourtant en Formule 1 avec des équipes qui sont elles aussi de différentes nationalités et assujetties à des fiscalités différentes. Alors, certes, un peu moins exotique mais c'est quand même ce système-là de budget cap.
Ouais, oui. Mais non, mais moi je demande qu'à être convaincu. Hein. Je détiens pas la vérité.
Ouais, compliqué.
Ça se saurait.
L'avenir du cyclisme dans le domaine des transferts, c'est vrai que c'est compliqué. Jérôme, bon, je ne sais pas si tu as une solution miracle, mais toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'éviter justement ces dérives qu'on peut voir dans d'autres sports, dans le vélo?
Alors remettre mettre des garde-fous comme disait Philippe tout à l'heure, mais pour revenir à cette histoire de salary cap, moi je suis d'accord avec Philippe, ça me paraît compliqué. J'ai parlé dans un autre podcast d'une draft, comme vient un peu de l'expliquer Philippe. En fait, le problème c'est que vous prenez une équipe Groupama FDJ par exemple qui a 20 ou 25 millions de budget. Si vous prenez une autre équipe qui a une autre fiscalité pour le même budget, elle va pas, enfin les deux équipes peuvent pas payer les coureurs de la même manière. Les charges en France c'est quasiment x2. Je sais pas, vous payez un coureur 100 000 euros l'année, il vous coûte quasiment 200 000 euros. Donc imaginez si vous payez quelqu'un, Pogacar, qui coûte 8 millions d'euros, s'il va à la Groupama FDJ, ils peuvent quasiment prendre qu'un coureur dans leur équipe avec les charges en France. Donc le problème, c'est ça, c'est que la fiscalité, elle n'est pas partout pareille. Vous avez encore des équipes où les coureurs ont des contrats d'indépendants, etc. C'est tellement compliqué et c'est difficile d'uniformiser tout ça. Et tant que... je vois d'ailleurs pas comment ça serait possible d'uniformiser tout ça, mais tant que ça sera pas uniforme, il y aura toujours des disparités dans les équipes parce que la fiscalité n'est pas la même, etc. Mais comment réguler ça? Justement, si on avait la solution, ça serait mis en place et puis tout le monde serait très heureux. Et malheureusement, je crois que pour l'instant personne n'a la solution. Cette histoire de salary cap, si certains ont des idées bien ficelées, bien cadrées, etc., pourquoi pas? Encore faut-il que ça soit accepté par tout le monde.
Il faudrait que l'UCI arrive à donner un peu plus à des équipes qui ont une fiscalité forte comme les équipes françaises et un peu moins à d'autres, parce que c'est aussi ça qui est compliqué à gérer pour l'UCI, Philippe. C'est si on revient aux ruptures unilatérales de contrat de Van Gils, encore de Kian Heusdebroeck, c'est aussi parce que en Belgique c'est possible de le faire. Par exemple, en France, ça serait un peu plus compliqué ces ruptures-là.
Je suis pas sûr.
Ouais, c'est même en France maintenant, on est capable de le faire et l'UCI ne pourra rien faire.
Écoutez, c'est le code du travail en France, c'est le régime du CDD, contrat à durée déterminée. Un coureur peut très bien rompre son CDD, dès lors il sait à quoi il s'expose, et à savoir à verser les salaires qu'il doit jusqu'à la fin de son CDD. Si vous êtes néo-pro et que vous êtes payé 40 000 euros à l'année, si vous allez chez UAE pour 1 million, je crois que vous avez vite intérêt. Vous voyez, je prends un exemple caricatural, mais juridiquement, ça ne me paraît pas impossible aujourd'hui en France.
Ça ne nous rassure pas. Ça, c'est parce que ça pourrait arriver.
Du coup,
Philippe, est-ce que finalement, on ne va pas avoir plutôt maintenant des contrats à très courte durée, des contrats peut-être d'un an qui vont arriver pour les jeunes coureurs qui vont pas oser s'engager aussi longtemps dans une équipe en fait?
Ouais, je ne sais pas. Alors déjà, n'oubliez pas que la réglementation impose 2 ans pour les jeunes coureurs, ce qu'on appelle des néo-professionnels. Toutes les solutions ont un effet pervers. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne solution. Et comme le disait Jérôme il y a quelques instants, si on la connaissait, elle serait déjà en place.
Et je pense là, Johan, pour rebondir là-dessus, des contrats, alors néo-pro 2 ans et après des contrats d'un an, à mon époque, ça se faisait beaucoup. Je crois que le seul qui avait signé un contrat très long, c'était Robert Gesink, qui à l'époque, il avait signé 5 ans et c'était le seul qui avait un contrat si long. Si tu signais 3 ans, c'était déjà un très long contrat. Mais justement, avec ces exemples de coureurs qui cassent un peu leur contrat, finalement, tu t'en fiches. Tu peux signer 3, 4, 5 ans. Si derrière, tu as une équipe qui est capable de venir et de racheter le reste de ton contrat, pourquoi tu vas te priver? Si tu signes 4 ans, je le répète encore, mais c'est un métier qui est quand même précaire, ça peut s'arrêter presque du jour au lendemain. On vous propose de signer 5 ans, vous avez entre guillemets la sécurité pour 5 ans. Et si c'est UAE qui vient vous chercher, tant mieux, ils vont se débrouiller pour acheter votre contrat et vous allez prendre un gros contrat. Puis si ça ne se passe pas comme vous l'espérez, vous avez quand même votre contrat de 5 ans dans votre équipe. C'est aussi un risque pour une équipe, pour un manager d'équipe, de faire signer un coureur 5 ans. Parce que d'une, il peut entre guillemets fumer la pipe pendant 4 ans et marcher seulement sa dernière année, ou il peut se blesser, il faudra quand même le payer la durée de son contrat, etc. Donc c'est les risques qui sont des deux côtés finalement. Il n'y a pas, en tout cas pour le moment, je ne vois pas de solution idéale.
Pas de solution miracle pour l'avenir du vélo dans les transferts. On arrive à la fin de ce podcast. On va vous remercier, Philippe Rimbaud, d'avoir été notre invité, vous qui vous préparez désormais à une autre vie. Ça va être quoi l'année 2025 pour vous, du coup, Philippe?
Ah, ça va être...
Du repos, beaucoup de repos.
Du plaisir à regarder les courses à la télévision. Et puis, j'ai d'autres petits projets. Et puis, quelques loisirs aussi qui m'occupent beaucoup.
Bien sûr, ça a été long, dur, fastidieux de s'occuper de tous ces coureurs, dont
non,
Jérôme
non,
Coppel.
Non.
Ouais, si, Jérôme, il est compliqué. On l'a tous les ans, toutes les semaines.
Ça n'a pas été fastidieux du tout. C'est un métier fantastique. Un milieu qui est à la fois attachant et agaçant de temps en temps. Mais non, c'est un métier passionnant. Faut jamais oublier qu'il y a des gens qui se lèvent à 5h du matin pour partir à l'usine tous les jours. Et nous, on travaille autour d'un jeu et c'est fantastique.
Merci Philippe d'avoir été notre invité. Merci Jérôme, évidemment.
Merci messieurs.
On te retrouve très vite. Et Pierre également, je te remercie. Merci Allez. De nous avoir écoutés. Cet épisode, et comme tous les épisodes de Grand Plateau, à retrouver sur votre plateforme de streaming préférée et sur le site rmcsport.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut à tous et bonne fête à vous.